Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, Nord Kivu, une partie de la commune rurale de Kibumba est à nouveau sous le contrôle de l'armée congolaise. Le constat a été fait par le commissaire provincial adjoint de la police du Nord Kivu qui a conduit une équipe mixte PNC-FRDC dans cette zone. Nord Kivu encore, la problématique de la lutte contre la corruption a été au centre d'une séance de réflexion organisée à Beni par le Parlement des jeunes en collaboration avec les affaires politiques de la MONUSCO. Les participants ont analysé les causes ainsi que les mécanismes de lutte efficaces contre la corruption. L'invité de ce journal est le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Joseph Olenganko y conduit depuis mercredi des consultations auprès de certaines personnalités du pays en vue d'une cohésion nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, une partie de la commune rurale de Kibumba est à nouveau ce vendredi sous le contrôle de l'armée congolaise. C'est après un bombardement par artillerie lourde des FARDC hier jeudi sur les rebelles du M23 dans la zone. Ce constat est révélé par le commissaire provincial adjoint de la police du Nord Kivu, chargé des opérations qui a conduit une équipe mixte PNC-FARDC dans la zone. L'objectif est de rassurer la population de Goma et de ses environs de leur sécurité. Des détails avec Pierrot et la Mangi.
La zone de Kibumba est calme ce vendredi, y compris dans les localités de Kanyamaoro et Nyundo, groupement de Bumba qui depuis hier sont passés sous le contrôle de l'armée. Selon le commissaire supérieur principal congolo-christian, les populations de Goma et celles de Niragongo peuvent se rassurer de leur sécurité. Le commissaire provincial adjoint de la PNC en charge des opérations et renseignements a conduit une patrouille mixte FARDC-PNC jusqu'à Kanyamaoro au sud de la commune rurale de Kibumba hier jeudi. D'après lui, l'objectif était de confirmer la reprise de cette zone par l'armée loyaliste et renforcer la confiance de la population civile, les appelant aussi à éviter toute intoxication par des rumeurs. Kibumba est une commune rurale s'étendant sur deux groupements, le premier de Kibumba au nord et le deuxième de Bumba au sud. Selon les sources civiles dans la zone, les rebelles sont encore dans certaines localités au nord du groupement de Kibumba, alors qu'une grande partie du groupement de Bumba au sud, dont les localités de Nyondo vers la frontière avec le Rwanda et celle de Kanyamaoro sur la nationale numéro 2, est contrôlée à nouveau par l'armée congolaise. Toutefois, ces localités restent encore vidées de leur population qui sont en déplacement.
En bref, l'armée ougandaise prépare le déploiement des nouvelles troupes en RDC dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est le porte-parole de l'armée ougandaise qui l'annonce sur le compte Twitter de l'UPDF. La force subit actuellement un dernier mentorat avant d'être déployée dans l'Est de la RDC pour rejoindre les forces kenyanes déjà à Goma, écrit-il. Rappelons qu'au moins 1200 autres militaires de l'armée ougandaise sont déployés depuis une année à Beni, au Nord Kivu et en Ituri, dans le cadre des opérations conjointes avec les FARDC dénommées Shuja contre les ADF. Et puis 6 personnes, dont une femme tuée par balle et 4 blessées grièvement, c'est le bilan de l'altercation qui a eu lieu hier vendredi à Shoa, un village situé dans les territoires de Masisi, à plus d'une centaine de kilomètres de Goma. Pour cause, une dispute relative au contrôle de cette localité entre deux factions du groupe armé des APCLS, dont le chef rebelle Mwislamu, un rebelle connu sous le nom de Irakunda, du groupe Shishikara opérant dans la région. La société civile de Masisi et le groupe des jeunes visionnaires du Nord Kivu déplorent cette insécurité et demandent aux autorités de renforcer les forces de l'ordre dans cette partie de la province. Le point avec Mathieu Ilunga.
Le groupe de jeunes visionnaires du Nord Kivu et la société civile de Masisi regrettent la perte de plusieurs personnes causée par l'activisme de ces groupes armés dans cette partie du pays. Le dernier cas remonte à jeudi 17 novembre à Shoa. On déplore la perte de 6 personnes tuées, dont 5 hommes et une femme, et 4 autres grièvement blessés. Les sources concordantes indiquent que tout a commencé lorsque le chef de la faction du groupe APCLC d'un certain Mwislamu a voulu désarmer un autre rebelle connu sous le nom de Irakunda du groupe Shishikara qui opère dans la même région. Face à ces drames, le président des jeunes visionnaires du Nord Kivu, Odari Mouave, demande aux autorités compétentes de renforcer les éléments de force de l'ordre dans cette partie de la province afin de mettre fin à l'activisme de groupes armés. Goma, Mathieu Ilunga Chamboyo Monachebe, Radio Okapi.
Au Nord Kivu encore, le chef du protocole d'État du gouverneur militaire est aux arrêts à Kinshasa. Blaise Kavungera a été interpellé mercredi dernier à Goma par l'Agence nationale des renseignements qui lui reproche de collaborer avec les rebelles du M23 à qui il fournirait des informations. Mais les sources de la province estiment que ce cadre du gouvernorat serait plutôt victime d'une calomnie après un démêlé avec un conseiller du chef de l'État mardi à Goma. Des détails avec Mathieu Ilunga.
Monsieur Blaise Kavungera a été transféré à Kinshasa après une nuit passée au cachot de l'ANR à Goma, précise les sources du gouvernement provincial du Nord Kivu. Alors que le service des renseignements accuse ses cadres du gouvernorat de collaborer avec le rebelle du M23 auquel il livrerait des informations. Ces sources, elles estiment que Blaise serait plutôt victime d'une calomnie. Selon elles, en effet, tout a commencé lors de l'arrivée mardi à Goma de l'ancien président kenyan et facilitateur de l'EAC pour la paix dans l'est de la RDC, Uhuru Kenyatta. Un des conseillers du chef de l'État qui était dans la délégation n'aurait pas toléré que Blaise Kavungera accorde la préséance au gouverneur et vice-gouverneur plutôt qu'à lui lors de l'accueil. Celui-ci aurait commencé à réprimander Blaise depuis l'aéroport déjà. L'allégation de collaborer avec le rebelle s'est revenue d'un coup de fil qu'aurait reçu Blaise, lui alertant sur des tirs dans les sites des déplacés de Kanyaruchinya, alors que la délégation de Uhuru Kenyatta devrait commencer par là. Pendant que celle-ci s'est confié aux autorités de l'armée pour faire, le conseiller aurait par la même occasion exigé au chef du service des renseignements de l'arrêter. Goma, Mathieu Ilunga Chamboyo Monachebe, Radio Okapi.
Et tout à fait autre chose à présent, remise officielle hier jeudi par le gouvernement provincial du Kwilu des kits scolaires et autres biens dont de l'UNICEF aux enfants déplacés victimes des atrocités de Kwamout inscrits dans les écoles de Bandundu, chef-lieu de cette province. La cérémonie officielle de cette remise a eu lieu à l'EP2 Malebo Sebko dans la commune de Mayoyo à Bandunduville. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives, des cadres de l'EPST Kwilu 1 et des milliers d'élèves. Les points avec Irène Boma.
Ces kits scolaires dotés jeudi aux enfants déplacés de Kwamout inscrits dans les différentes écoles de la ville de Bandundu sont essentiellement constitués de sacs à dos, des cahiers, des stylos et autres fournitures. Il s'agit d'une dotation de l'UNICEF après plaidoyer de la province à leur faveur. Outre ces dons individuels, l'UNICEF a également remis 100 bancs pupitres à des écoles dont l'EP Movoto et l'EP de Malebo Sebko qui ont accueilli un bon nombre de ces enfants. Jean Expedimbo Makwaya est le prophète intérimaire du Kwilu 1.
Ces biens qui seront distribués symboliquement tout à l'heure sont dotés au profit des enfants déplacés en vue de leur intégration dans notre communauté éducative. D'autres biens sont pour l'ensemble des écoliers de l'école qui les a reçus, tels que les vareuses, ballons, bancs, etc.
Pour leur part, les élèves bénéficiaires de ces dons se disent satisfaits et remercient l'UNICEF. L'UNICEF nous a aidés, il nous a remis des bancs, des cahiers et des stylos. Il nous a aussi remis des varèzes. Nous lui disons merci. Notez que c'est Philippe Akamituna, directeur des cabinets du gouverneur du Kwilu, qui a procédé au nom de l'autorité provinciale à la remise symbolique de ces dons. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
À Beni, la problématique de la lutte contre la corruption a été au centre d'une séance de réflexion ce vendredi, organisée par le Parlement des jeunes en collaboration avec les affaires politiques de la MONUSCO. Ont participé à cette rencontre différents acteurs étatiques et communautaires de la place. Ensemble, ces derniers ont analysé les causes ainsi que les mécanismes de lutte efficaces contre la corruption dans la ville de Beni en particulier et au pays en général. Marc Marofimbo nous fait le point.
Cet atelier scientifique repose sur les analyses approfondies des causes de la corruption dans tous les secteurs de la vie, en commençant par les institutions de l'État et autres. Il s'en est suivi la recherche de mécanismes conséquents afin de combattre la corruption de la société, comme les énumère ici le pasteur John Ngoy, expert en économie et orateur de cette assise.
Le premier élément, je vais parler de la rééducation de l'homme. Parce que lorsque quelqu'un, la conscience ne fonctionne plus, il est comparable à quelqu'un qui est déjà mort. Nous devons être un peuple qui doit d'abord avoir une prise de conscience. Deuxième élément, de la mise en place des structures de lutte contre la fraude. C'est-à-dire là, je vais parler de la justice. Et il n'y a pas que la sanction. Lorsqu'on sanctionne quelqu'un qui a corrompu ou qui s'est fait corrompre, arriver même au niveau de faire payer aussi les amendes à ces corrupteurs et ces corrompus-là. Parce que si de cet atelier, il va y sortir même une personne qui sortira avec l'esprit de combattre la corruption, on aura déjà fait quelque chose.
Les participants ont émis le vœu de voir ces genres d'activités s'élargir dans toute la province afin que ce fléau qui ronge nos sociétés et source de chaos économique soit éradiqué de la communauté. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
L'Assemblée provinciale du Douala-Ba a voté au cours de la plénière d'hier jeudi la résolution autorisant les procureurs généraux près la Cour de cassation les poursuites contre le gouverneur Richard Mouyège et l'ouverture d'instruction à charge de la députée provinciale Louise Mouelechi pour le détournement présumé des fonds destinés à appuyer les projets agricoles pour la saison 2019-2020. Le gouverneur Richard Mouyège avait été mis en accusation depuis le mois de septembre 2021 par l'Assemblée provinciale du Douala-Ba. Des détails avec Jean Gandou.
La séance plénière de ce jeudi devait statuer sur deux réquisitoires du procureur général près de la Cour de cassation, datés du 15 novembre dernier, adressés à l'Assemblée provinciale du Douala-Ba. Le premier sollicitait l'autorisation des poursuites contre le gouverneur Richard Mouyège. Le deuxième demandait à l'organe délibérant du Douala-Ba d'autoriser l'ouverture d'instructions contre la députée provinciale Louise Mouelechi, tous accusés du détournement présumé de 26 millions de dollars américains, qui était un crédit contracté par la province pour appuyer un projet agricole pour la saison 2019-2020. Pour la députée Louise Mouelechi, les faits mis à sa charge datent de la période où elle était ministre provinciale de l'agriculture, pêche et élevage. Cette question a suscité un grand débat parmi les députés provinciaux, notamment pour ce qui est du gouverneur Richard Mouyège.
Si pour nous Mouyège n'était plus gouverneur, pourquoi on s'adresse à nous?
Alors là, président, nous c'est là qu'on est en train de discuter ici. S'il n'était pas gouverneur, c'est le prix et jeté.
Moi, je ne donne pas de chance de réussite à la démarche de l'Assemblée.
Ce n'est pas notre affaire, c'est le problème de la justice.
Non, c'est le problème de l'Assemblée. C'est tout est parti de l'Assemblée. Je ne suis convaincu de rien.
Il n'y a pas de problème.
À l'issue du débat, un vote à bulletin secret a été organisé. Sur 20 députés présents, 16 ont voté pour l'autorisation des poursuites et d'instructions, 3 ont voté contre et 1 n'a pas voté. Kolwezi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Recruter les plus des jeunes à pratiquer les sports paralympiques en RDC, c'est l'objectif de la journée de sensibilisation des jeunes vivant avec handicap, organisée ce vendredi à Kinshasa par le Comité national paralympique. Cette journée a connu la participation de plusieurs personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Betty Miangidila Mbenza, présidente de ce comité, ajoute que les jeunes vivant avec handicap se préparent également à prendre part aux prochains Jeux de la francophonie qui auront lieu ici à Kinshasa. Betty Miangidila Mbenza le dit à Paul Matendo.
Alors vous savez que le pays est en train de préparer les Jeux de la francophonie et avec le soutien de l'ambassade de France, nous avons organisé ces deux journées de sensibilisation de la jeunesse. L'objectif, c'est de recruter le plus de jeunes possible à pratiquer le sport paralympique. C'est ça l'objectif, pour que l'année prochaine, que nous ayons un grand nombre de gens, des personnes en situation de handicap qui pratiquent le sport, comme ça on peut les sélectionner facilement, on peut sélectionner les champions facilement. On a mis l'accent sur le Comité national paralympique. C'est quoi le Comité national paralympique? Quelles sont les activités que ce comité organise et compte organiser? Et puis le deuxième volet, c'était sur le droit de la personne en situation de handicap. Quels sont ses droits? Il faut qu'on arrive à changer la mentalité des gens. Il faut qu'on arrive à évoluer dans le sens qu'il faut qu'on prenne la personne en situation de handicap comme une personne à part entière qui a des droits et peut-être les devoirs. Mais ces droits, notamment le droit à pratiquer le sport.
En Ituri, 3 détenus de la prison centrale de Mambasa sont morts hier jeudi à l'hôpital général de cette entité territoriale située à 65 km au sud-ouest de Bounia. Selon la nouvelle société civile locale, 3 autres sont dans un état critique dans la même structure sanitaire et une dizaine d'autres dans cette maison pénitentiaire. Selon cette société citoyenne, au moins 15 prisonniers sont déjà morts depuis le début de ce dernier trimestre dans cette prison à cause de mauvaises conditions de détention.
Actualité internationale.
La conférence mondiale de l'ONU sur le climat, dont les négociations patinent, notamment sur les questions de financement pour les pays pauvres, sera prolongée jusqu'à demain samedi, a annoncé ce vendredi à Sharm el-Sheikh son président égyptien Sameh Shoukry. Je suis déterminé à terminer cette conférence demain samedi, a déclaré Shoukry, appelant les parties à passer à la vitesse supérieure dans les négociations initialement prévues pour s'achever ce vendredi. L'Ukraine a annoncé ce vendredi la réouverture de la ligne de train entre la capitale Kiev et Kherson, une semaine jour pour jour après le retrait de l'armée russe de cette importante ville du sud du pays. Le premier trajet aura lieu aujourd'hui à 22h14, soit 20h14 temps universel depuis la capitale, et arrivera demain autour de 9h, soit 7h temps universel à Kherson, a indiqué sur Facebook un responsable local, Sergui Klan, précisant qu'environ 200 passagers voyageront à bord du train.
L'invité.
L'invité de ce journal est le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Joseph Olengankoy conduit depuis mercredi des consultations auprès de certaines personnalités du pays en vue d'une cohésion nationale. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Joseph Olengankoy, bonjour.
Bonjour.
Vous menez avec votre équipe du CENSA des consultations auprès de certaines personnalités du pays. Quels en sont les objectifs?
Mais l'objectif est d'ici ça, moi je crois que c'est de rapprocher de plus en plus les acteurs politiques. Pendant cette période que le pays est tenté de traverser, une menace est réelle. Et vu la distraction de ce qui se passe dans le pays, on est tenté de comprendre qu'apparemment les hommes politiques ne prennent pas conscience du danger qui est tenté de guetter la République. Et laisser ça, notamment dans ses prérogatives, et dont notamment la mission qui est l'air, conformément à la loi, à sa loi organique, et même d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce que peut-être les gens oublient. C'est de là dont nous tirons la légitimité de voir prendre langue avec des acteurs politiques, les rapprocher pour qu'on voie s'ils ont la même lecture sur la situation qui menace le pays actuellement. Et je crois que vous, comme vous le devez le savoir, on ne peut pas parler d'une nation sans la cohésion. Et la cohésion est autour des personnalités qui incarnent l'aspiration de leur peuple.
Mais l'ordonnance loi du 13 novembre 2018 instituant le CENSA ne vous confie pas un tel mandat, une telle mission.
Tout à fait. Quand vous regardez par exemple sur le chapitre 5.2 de l'accord, ça c'est la mission réelle du CENSA. Vous savez, nous sommes dans un pays de distraction. Monsieur Olengankoy, c'est un monsieur qui a lutté toute sa vie pour un État réellement de droit. Quand il entreprend quelque chose, c'est ce qui est conforme à la loi.
Oui, la même loi qui a institué le CENSA a fixé la mission spécifique qui est celle de contrôler le processus électoral, faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et cet accord n'existe plus. Bon, le processus électoral était déjà bouclé avec l'élection de 2018.
Non.
L'élection de
Mais c'est que c'est dommage.
Que la mission est accomplie.
C'est dommage. La mission n'est pas... On est en pleine mission. Il vous dit la mission prendra fin lorsqu'on fera les élections locales, municipales et les élections locales, municipales et urbaines. Ça, c'est la loi. Vous savez, monsieur, je vous dis encore une fois, M. Lengankoy, il n'est pas demandeur d'emploi. Mais c'est ça a été fait en fonction de Tien Tshisekedi Wamuluba. Alors, si aujourd'hui les circonstances sont qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est privé peut-être de tout, contrairement à ce que certaines langues disaient, budgétivore, ceci, machin. Non. Nous, on ne fait pas encore des choses à cause de l'argent. On fait les choses à cause de la conviction.
De qui vous avez reçu mandat pour mener ces consultations?
Nous avons reçu mandat de la plénière. Et je crois que la plénière de CCS souveraine. Et c'est de là cette première plénière qui a décidé à ce que nous menions cette mission. Et je dois vous le dire, elle va réussir et elle est tentée de réussir et elle est bien. Vous allez voir toutes les personnalités congolaises se mettre ensemble. Ça n'a rien à voir avec le partage du pouvoir équitable ou équilibré. Non.
Dans votre agenda, vous prévoyez de rencontrer qui?
Mais dans mon agenda, écoute, je vais rencontrer tout le monde. Hein. Je vais rencontrer l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est une personnalité qui a énormément fait pour le pays. Je vais rencontrer aussi les personnalités de son groupe qui ont géré aussi le pays pendant longtemps et qui ont une forte expérience. Je vais rencontrer le docteur Mukwege, qui est une prix Nobel de notre pays. Je vais rencontrer beaucoup de personnalités, dont des anciens qui ont dirigé ce pays, des anciens premiers ministres, des anciens présidents du Parlement.
Est-ce que Joseph Olengankoy n'est pas en train de faire son show, sachant que ça ne va aboutir à rien? Des gens qui sont extrémistes, qui campent sur leur position, est-ce qu'ils vont venir
vers
Félix Tshisekedi?
Non, moi jusque-là, moi je n'ai pas trouvé d'extrémisme. Je suis en contact téléphonique, même avec tout le monde. Et j'ai oublié même de citer Moïse Katumbi. Mais de toutes les façons, moi je n'ai pas besoin de show. Olengankoy est connu dans ce pays comme des petits pains.
Vous vous donnez quel délai pour boucler ces consultations?
Nous bouclons, c'est un problème de volonté des acteurs à présent, c'est un problème du temps. Et vous savez que c'est une histoire qu'on vient de commencer il y a 48 heures. Et je suis convaincu, je ne doute pas un seul instant, de la capacité des hommes politiques à se mettre ensemble. Alors, moi, ma mission va s'arrêter à ce niveau-là. Et une fois il y a les rapports, on va donner à qui de droit? C'est le président de la République. Et c'est lui qui prend contact avec les restes pour finaliser. Mais c'est ça, c'est limite au niveau des propositions.
Pensez-vous qu'il est facile de bouter l'ennemi dehors en étant simplement uni?
Mais nous pensons que dans l'histoire des nations, l'unité d'un peuple est plus puissante qu'une bombe atomique. Et c'est là qu'on dit qu'un peuple est conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique.
Joseph Olengankoy, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie de l'opportunité.
C'était l'invité de ce journal, le président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre. Joseph Olengankoy s'entretenait avec Jeff Ngoy. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.